Ego sum qui sum.
J'avais revu Belbo le matin suivant. Hier, nous avons écrit une belle page de feuilleton, lui avais-je dit. Mais peut-être, si nous voulons faire un plan crédible, devrions-nous coller davantage à la réalité.
Quelle réalité ? M'avait-il demandé. Seul, peut-être, le feuilleton nous donne la vraie mesure de la réalité. On nous a trompés.
Qui ?
On nous a fait croire que d'un côté, il y a le grand art, celui qui représente des personnages typiques dans des circonstances typiques, et de l'autre, le roman feuilleton, qui raconte l'histoire de personnages atypiques dans des circonstances atypiques. Je pensais qu'un vrai dandy n'aurait jamais fait l'amour avec Scarlett O'Hara, ni avec Constance Bonacieux, ou Aurore de Caylus non plus. Moi, je jouais avec le feuilleton pour faire un petit tour hors de la vie. Il me rassurait parce qu'il proposait ce qu'on ne peut atteindre. Eh bien non.
Non ?
Non, Proust avait raison. La vie est mieux représentée par la mauvaise musique qu'elle ne l'est par une missa solemnis. L'art se moque de nous et nous rassure. Il nous fait voir le monde comme les artistes voudraient qu'il fût. Le feuilleton fait semblant de plaisanter, mais au fond, il nous fait voir le monde tel qu'il est, ou au moins tel qu'il sera. Les femmes ressemblent plus à Milady qu'à Cleia Conti. Fu Manchu est plus vrai que Nathan le Sage. Et l'histoire ressemble davantage à ce que raconte Su qu'à ce que projette Hegel. Shakespeare, Melville, Balzac et Dostoïevski ont fait du feuilleton ce qui est vraiment arrivé. C'est ce qu'avaient raconté à l'avance les romans feuilletons. C'est qu'il est plus facile d'imiter le feuilleton que l'art. Devenir la Joconde est un travail. Devenir Milady suit notre penchant naturel à la facilité. Diotalevi, qui jusqu'alors était resté silencieux, avait observé « Voyez notre Aglié, il trouve plus facile d'imiter Saint-Germain que Voltaire. » « Oui, avait dit Belbo, au fond les femmes aussi trouvent que Saint-Germain est plus intéressant que Voltaire. » Par la suite, j'ai retrouvé ce fil où Belbo avait résumé nos conclusions en termes romanesques. Je dis en termes romanesques parce que je me rends compte qu'il s'était amusé à reconstituer l'épisode en n'y mettant de son cru que de rares phrases de raccord. Je ne repère pas toutes les citations, les plagiats et les emprunts, mais j'ai reconnu de nombreux passages de ce collage furibond. Une fois de plus, pour échapper à l'inquiétude de l'histoire, Belbo avait écrit et reparcouru la vie par écriture interposée. Philnème, le retour de Saint-Germain. Depuis 5 siècles, désormais, la main vengeresse du Tout-Puissant m'a poussé les profondeurs de l'Asie jusque sur ces terres. J'apporte avec moi l'épouvante, la désolation, la mort. Mais courage, je suis le notaire du plan, même si les autres ne le savent pas. J'ai vu bien pire, et les manigances la nuit de la Saint-Barthélemy m'ont coûté plus d'ennuis que ce que je me dispose à faire. Oh, pourquoi mes lèvres se plissent-elles dans ce sourire satanique? Je suis celui qui est, si le maudit Cagliostro ne m'avait pas usurpé jusqu'à ce dernier droit. Mais le triomphe est proche. Soapès, quand j'étais Calais, m'a tout appris dans la tour de Londres. Le secret, c'est de devenir un autre. Par d'astucieuses manœuvres, j'ai fait enfermer Joseph Balsamo dans la forteresse de San Leo, et je me suis emparé de ses secrets. En tant que Saint-Germain, j'ai disparu. Maintenant, tout le monde croit que je suis le comte de Cagliostro. Minuit vient de retentir à toutes les horloges de la ville. Quel calme peu naturel. Ce silence ne me dit rien qui vaille. Le soir est splendide, encore que très froid. La lune haute dans le ciel illumine d'une clarté glaciale les venelles impénétrables du vieux Paris. Il pourrait être 10 heures du soir. Le clocher de l'abbaye des Blackfriars a depuis peu sonné lentement 8 heures. Le vent secoue avec de lugubres grincements les girouettes de fer sur l'étendue désolée des toits. Une épaisse couche de nuages recouvre le ciel. Capitaine, remontons-nous ?
Non, au contraire, nous descendons. Damnation. Bientôt, le patna coulera à pic.
Saute, Jim de la papaye, saute!
Ne donnerais-je pas, peut-être pour échapper à cette angoisse, un diamant gros comme une noisette?
L'eau fait en grand, la barre de sous-toute, la grand voile, le perroquet. Et quoi encore, hôte de malheur?
Là-bas, ça souffle!
Je grince horriblement de toutes mes dents, tandis qu'une pâleur de mort embrase mon visage cireux de flammes verdâtres. Comment suis-je arrivé ici, moi qui semble l'image même de la vengeance? Les esprits de l'enfer n'auront que sourire de mépris devant les larmes de l'être dont la voix menaçante les a fait trembler si souvent au sein même de leur abîme de feu.
Oh là, un flambeau!
Combien de marches ai-je descendu avant de pénétrer dans ce bouge?
7, 36.
Il n'est pierre que j'ai effleuré, pas que j'ai accompli, qui ne cacha un hiéroglyphe. Quand je l'aurai dévoilé, Améphéo sera enfin révélé le mystère. Après, il n'y aura plus qu'à le déchiffrer. Et sa solution sera la clé derrière laquelle se cache le message qui, à l'initié et à lui seul, dira en lettres claires quelle est la nature de l'énigme. De l'énigme au décryptage, le pas est bref et il en sortira éclatant le hiérogramme sur quoi affiner la prière de l'interrogation. Ensuite, il ne pourra plus être ignoré de personne, l'arcane, voile, couverture, tapisserie égyptienne qui recouvre le pentacle. Et de là vers la lumière pour déclarer du pentacle le sens occulte, la question cabalistique, à quoi ils seront peu à répondre, pour dire d'une voix de tonnerre quel est le signe insondable. Pliés sur lui, 36 invisibles devront donner la réponse, l'énonciation de la rune, dont le sens n'est ouvert qu'au fils d'Hermès, et qu'à eux soit donné le sceau moqueur. Masque derrière lequel se profilerait le visage qu'il cherche de mettre à nu, le rébus mystique, l'anagramme sublime. « Sator, arepo !» criai-je d'une voix à faire trembler un spectre. Et, abandonnant la roue qu'il tient avec le concours diligent de ses mains homicides, Sator arepo apparaît, soumis à mon commandement. Je le reconnais, et déjà je soupçonnais qui il était. C'est Luciano, l'expéditionnaire mutilé, que les supérieurs inconnus ont désigné comme exécuteur de ma tâche infâme et sanglante. « Sator arepo !» demandai-je moqueur. « Sais-tu, toi, quelle est la réponse finale qui se cache derrière la sublime anagramme ?»« Non, comte, » répond l'imprudent, « et je l'attends de tes paroles. » Un éclat de rire infernal sort de mes lèvres pâles et résonne sous les voûtes antiques. « Naïf, seul le vrai initié sait qu'il ne la sait pas. »« Oui, maître, » répond obtus l'expéditionnaire mutilé, « comme vous voulez, je suis prêt. »
Nous sommes dans un bouge sordide de Clignancourt. Ce soir, c'est toi que je dois punir, avant tout le monde, toi qui m'as initié à l'art noble du crime.
Me venger de toi, qui feins de m'aimer, et, ce qui est pis, le croix, et des ennemis sans nom avec qui tu passeras le prochain week-end.
Luciano, témoin importun de mes humiliations, me prêtera son bras, l'unique, puis il en mourra.